Dans les années 60, moi j'étais en Côte d'Ivoire, mon pays natal. Il y avait non seulement la radio nationale, donc Radio Côte d'Ivoire, mais on était aussi couvert par les stations comme la Voix de l'Amérique, The Voice of America, ou la BBC, qui sont les deux premières grandes radios qui couvraient l'Afrique dans ces années des indépendances. Et la musique s'écoutait essentiellement par la radio. Je me rappellerai toujours de l'année 1966 avec l'arrivée du 45 tours de Johnny Hallyday, Noir c'est noir.
Comme l'animateur de radio Soro Solo, Serge Billet était à Abidjan dans les années 60 et il en a fait un livre aujourd'hui pour nous raconter comment ce mouvement musical emmené par Johnny Hallyday, les Yéyés, était aussi un mouvement de libération pour la jeunesse africaine. Bonjour Serge Billet.
Bonjour Pascal.
Journaliste reconnu, écrivain, cinéaste, vous avez beaucoup écrit sur la place des Noirs dans l'histoire et tout particulièrement dans les camps nazis puisque ça a été l'un de vos films et de vos récits. Et aujourd'hui, vous faites votre coming out. À 6 ans, vous étiez yéyé.
Oui.
Ça a été difficile à avouer.
Non, pas spécialement, mais c'est une partie de sa vie qu'on occulte parce qu'on fait beaucoup de choses après. Et puis, au bout de 25 livres, dans une discussion que j'ai eue un jour avec une amie de Johnny Hallyday, ça m'est revenu comme ça tout d'un coup. Je me suis dit, mais oui, mais moi aussi, mon enfance, elle était bercée par Johnny Hallyday, par Sylvie Vartan, par Claude François et autres. Et j'ai eu envie de la raconter.
Alors, yéyé, c'est le mot pour qualifier cette jeunesse qui découvre le rock et le twist. Et je crois que c'est la répétition de...
Le truc américain, tout à fait.
Qui devient yéyé pour les Français. Et alors, en lisant votre livre, j'ai aussi découvert que cela a été le cas des supporters de l'équipe du stade d'Abidjan,
oui,
qui sont des yéyés.
Ils sont des yéyés. On les appelle encore aujourd'hui les yéyés.
Mais c'est-à-dire pourquoi? À cause des yéyés?
Parce qu'à l'époque, la jeunesse ivoirienne était yéyée. Et donc, on recrutait les joueurs de cette équipe au sein des étudiants, alors que les autres équipes avaient tendance à prendre plutôt donc, des gens qui travaillaient, comme des mécaniciens, comme des coiffeurs. Le stade d'Abidjan recrutait ses joueurs parmi les étudiants. Et donc, comme ces étudiants étaient des yéyés, les supporters les ont surnommés les yéyés.
Et donc aujourd'hui, yéyé footballeur ou yéyé musicien, en tout cas, vous vous souvenez de la venue de Johnny Hallyday à Abidjan, c'était en mai 66.
Le 13 mai 1966, je m'en souviens très bien parce que c'est mon père qui a fait la première interview de Johnny Hallyday en Afrique subsaharienne et ce jour-là, il a reçu Johnny Hallyday donc sur son plateau.
Il faut raconter les conditions de cette interview.
Disons que lorsque Johnny Hallyday arrive, c'est d'abord donc organisé par un groupe de personnes sur place qui sont des expatriés et ils vont voir la direction de la télévision ivoirienne en demandant à ce que Johnny puisse passer dans une émission, en l'occurrence celle de mon père. Mon père accepte, mais il y a un deal, Johnny Hallyday devra se produire, faire un playback sur le plateau. Sauf que les organisateurs ne l'ont pas dit à Johnny Hallyday. Donc lorsque Johnny Hallyday arrive à la RTI ce jour-là, il est accueilli par un autre animateur qui travaille avec mon père, qui s'appelle George Benson, et donc George Benson lui demande quel est le morceau que vous allez interpréter. Là, Johnny Hallyday lui dit, mais pas question, il n'était pas au courant, il dit pas question, j'ai pas prévu de chanter, donc ni en playback, ni autrement. Et donc George Benson le prend mal. Il se tourne vers l'organisateur qui était juste à côté de Johnny Hallyday, avec qui il avait une réunion donc auparavant avec mon père et avec les dirigeants de l'RTI, et lui dit « Mais vous êtes malhonnête ». Et Johnny Hallyday le prend pour lui et lui dit « Répète si t'as des couilles ». Et donc, ils ont failli se battre dans la cour de la télévision. Ils ont été séparés donc, par des agents qui étaient là. Et finalement, donc, Johnny a pu faire l'émission avec mon père, mais mon père était très frustré parce que Johnny n'a pas chanté sur le plateau.
Et Johnny Hallyday, répète si t'as des couilles, est donc le titre de votre essai. Je vous ai laissé
tout à fait
le nommer. En tout cas, tout s'est bien passé ensuite à l'antenne. Mais on a des traces de cet entretien?
Non, parce que le drame de l'Afrique, c'est que souvent, les archives ne sont pas conservées. Et en plus, lorsqu'il y a eu des troubles avec la guerre civile, il y a des archives qui ont été brûlées à la RTI. Et donc, il ne reste plus rien. Dieu merci, George Benson est encore vivant et donc il a pu me raconter sa part. Et mon père a pu me raconter sa part aussi.
Et ces visites en Afrique ne se font pas en catimini parce qu'il y a Abidjan, mais il y a aussi Dakar où il est reçu par le président de la République.
Oui, en 1967, Un an donc après Abidjan, donc Johnny Hallyday donc se rend à Dakar et il chante dans le théâtre national Daniel Sarano, qui est un théâtre de 1200 places, et là devant l'élite sénégalaise et l'élite française. Tout se passe très bien, mais le lendemain, il y a une émeute lorsqu'il va faire une dédicace, parce que le peuple est furieux d'avoir pas pu donc accéder donc à ces concerts qui étaient trop chers. Donc tout est cassé, Johnny est exfiltré. Et là, le président Senghor prend la mesure du problème et il décide d'offrir un spectacle gratuit dans le stade. Et il reçoit Johnny Hallyday et toute son équipe à domicile, en privé, avec sa femme. C'est elle qui fait la cuisine. Et l'un des musiciens de Johnny Hallyday, qui est encore vivant, m'a dit qu'elle nous a servi du poulet au hachis.
Au hachis ?
Du poulet au hachis.
C'est une spécialité
je ne sais pas.
Sénégalaise.
Je ne sais pas. Et m'a dit, on a tous, en tout cas les musiciens ont tous apprécié. Moi, j'ai goûté, mais je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et Johnny Hallyday non plus. Mais en tout cas, c'était un bon moment. Et effectivement, Senghor a pu rattraper un peu la bourde du concert qui avait été donc donné aux élites.
J'en reviens à Abidjan. Les concerts se sont bien passés après cet entretien ?
Très très bien. Très bon concert d'abord donc, dans une petite salle de cinéma de 400 places et ensuite dans un stade, et ça s'est très très bien passé. Les derniers témoins m'ont dit qu'ils avaient vraiment connu une ambiance extraordinaire, notamment lorsqu'il a chanté la chanson Noir c'est Noir, c'était l'explosion dans le stade.
Et vous n'étiez pas au concert quand même. Vous aviez quoi ?
6 ans ? 6 ans,
non, bah oui,
6 ans.
À la maison, au lit.
Non, tout à fait.
Serge Billet. À l'époque, l'Afrique était yéyé, dites-vous, mais même si elle ne l'était pas exclusivement, car émergent des stars africaines que l'on connaît aujourd'hui. Et dans votre livre, vous citez par exemple Alpha Blondie, qui a fait une chanson.
Et qui a raconté dans cette chanson, comment à l'époque, on portait des pattes d'eff, on dansait au Tropicana, qui était la boîte donc, à la mode à l'époque. Donc c'était le cas pour Alpha Blondie, c'était le cas aussi pour Manu Dibango. On oublie que la première chanson de Manu Dibango, c'était un twist. C'est ça qui l'a fait connaître dans toute l'Afrique. C'était aussi le cas de Monseigneur Rochereau, qui est le chanteur, qui est le père de Youssoupha, l'actuel rappeur, et qui a été complètement, lui, hypnotisé par Claude François, au point qu'il avait créé des danseuses aussi, qu'il appelait les Rocherettes, comme les Claudettes. Voilà, c'était vraiment une vague yéyé qui a embrasé toute l'Afrique et qui a embrasé donc tous les artistes de l'époque.
Alors vous citez Manu Dibango et grâce à vous, Serge Billet, en effet, j'ai découvert ce titre incroyable, Twist, à Léopoldville. Aé, 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 aé. Aé, 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 aé. Oui, mon corps balance. Titre de Manu Dibango ressuscité sur RFI, grâce à vous, Serge Billet. C'est étonnant quand même. Hein,
ah non, mais c'est fascinant.
Ça,
c'est... Moi j'adore parce qu'en plus, on avait oublié que Manu Dibango chantait et savait chanter. On l'a vu au sax et on a oublié que sa première chanson, c'est lui qui l'a interprétée.
Alors c'est en 62. Donc ouais. C'est avant la
à l'époque,
la première...
il habitait à Léopoldville.
Ils se sont rencontrés tous les deux ?
Avec Johnny, je pense d'après ce que... Parce que j'ai connu Manu, moi, plus tard, et j'ai cru entendre qu'il avait, à un moment donné, orchestré des chansons de Johnny Hallyday. Donc, ils ont dû se rencontrer par la suite, dans les années 80-90.
Serge Billet, aujourd'hui notre invité pour son livre « Johnny Hallyday, répète si t'as des couilles ». Alors, cette vague yéyé est quand même héritée tout droit du colonialisme, même si on est... à l'époque des indépendances africaines.
Exactement, il ne faut pas s'en cacher. Et c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on sort de colonialisme avec des pays qui veulent être indépendants, sauf que ces pays se retrouvent, en tout cas ces jeunes, se retrouvent sous la férule de militaires ou de régimes à parti unique qui sont extrêmement durs. Donc finalement, la mode yéyé est une bouffée d'oxygène qui leur permet d'accéder à une certaine liberté qui est véhiculée par des chanteurs comme Johnny Hallyday et à laquelle donc ils se rattachent. Et c'est tout le paradoxe de cette époque où on veut l'indépendance, mais on retourne un peu en arrière.
Oui, avec une culture qui est quand même marquée par ce qui se passe en métropole, parce que les yéyés, c'est quand même la France. Et vous racontez comment à la télévision, par exemple, vous comme moi, on a regardé au théâtre ce soir.
Mais c'est ça, on regardait au théâtre ce soir, on regardait toutes les émissions donc, de variété que l'ORTF envoyait gratuitement donc, à la télévision ivoirienne, qui était diffusée par la RTI. Et tous les conflits qu'il y avait donc, en France entre les yéyés se retrouvaient en Côte d'Ivoire, notamment le duel entre Antoine et Johnny Hallyday, avec cette espèce de passe d'armes. Les jeunes en Côte d'Ivoire reproduisaient ces mêmes querelles entre eux à travers ce qu'ils lisaient dans Salut les copains, le magazine donc des yéyés.
Est-ce que les yéyés ont participé à la défense de la langue française?
Non, je ne pense pas.
Non,
je ne pense
parce que dans le même temps, il y avait les stars américaines qui arrivaient sur le marché aussi.
Oui, parce qu'il y a eu quand même l'offensive de James Brown qui était aussi extraordinaire. Il y a eu en même temps les stars qui venaient du monde caribéen, c'est-à-dire que la salsa Johnny Pacheco qui marchait très très bien aussi. Je ne pense pas qu'il n'y avait pas cette urgence de défense d'une langue. Il y avait juste l'envie de vivre. Quand on regarde les gens de cette époque, c'était comme en France, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'insouciance, une envie de vivre, d'être heureux.
Vous dites quand même dans ce livre que faire yéyé, ça veut dire à Abidjan faire le beau.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a...
Mais aujourd'hui encore.
Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Par exemple, aujourd'hui, quand on dit « Joe », qui est une expression affirmative en Côte d'Ivoire, on dit que cette expression vient de Johnny Hallyday. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent du passé qui sont encore restées aujourd'hui.
Et Chocobi ?
Chocobi, c'est que lui qui veut parler comme un blanc. Et aujourd'hui, on dit quand on est choco, c'est-à-dire qu'on est quelque chose un peu classe, quoi.
Mais chez les jeunes ou les jeunes de notre âge ?
Non, les jeunes de mon époque.
Ah.
Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, la langue qu'utilisent les jeunes aujourd'hui, c'est souvent le nouchi. Donc, ils sont passés à un autre nouchi parce que le nouchi est une langue qui a beaucoup évolué et qui évolue encore aujourd'hui. Donc on ne dit pas les mêmes choses qu'autrefois, mais il y a des termes comme yéyé, comme Joe qui sont encore restés.
Johnny fait donc l'événement en France, mais aussi en Afrique et tout particulièrement en Côte d'Ivoire. Et il y a cette fameuse chanson « Noir, c'est noir ».
Je suis dans le noir, j'ai du mal à croire au gris de l'ennui, et je te crie, oh, 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 oh. Je ferai tout pour sauver notre amour, tout jusqu'au bout.
Noir, c'est donc Johnny Hallyday, l'année de sa première tournée en Afrique en 66. Alors je dis la première parce qu'il y en a eu plusieurs quand même, fidèle.
Oui, tout à fait.
Il y en a eu combien en tout ?
En Côte d'Ivoire, il est passé en 66, il est passé en 71, il est passé en 77, mais je crois qu'il a dû faire entre 4 et 5 tournées en Afrique.
Noir, ça a un sens particulier.
Mais disons que pour beaucoup de gens, la chanson était vraiment prise dans l'esprit de l'écriture de cette chanson, qui était une chanson qui a été faite par un parolier français qui voulait raconter un peu sa tristesse dans sa propre vie, et donc il l'a exprimée comme ça. Mais sauf que on est quand même 6 ans après la colonisation, avec des esprits qui certes sont ouverts à ce qui vient de France, mais certains qui ont une compréhension qui est complètement différente, qui estiment que cette chanson est une offense, parce que quelque part, elle indexe donc cette population africaine en laissant entendre justement que c'est une population qui n'a aucune chance. Il ne faut pas oublier que la couleur noire, par le passé, donc, a été connotée négativement. Et donc, Johnny Hallyday arrive avec cette chanson et il connaît un certain nombre de problèmes dans certains pays. D'abord au Congo, mais aussi en Côte d'Ivoire où lorsque la chanson est diffusée, ça crée quand même certains remous. Au Sénégal, pareillement. Mais le plus grave, c'est quand il arrive au Burkina Faso en 1968. Il vient pour un concert et là, il y a un bras de fer entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Intérieur est favorable à ce que Johnny se produise. Le ministre de l'Éducation nationale n'est pas d'accord parce qu'il estime que Johnny, non seulement véhicule une mauvaise image, et qu'il chante une chanson qui est une offense. Donc il y a un conseil des ministres et finalement le président Lamizana donc tranche et donc Johnny est expulsé. À peine arrivé donc à Ouagadougou, il est expulsé.
Pourtant, certains ont dit que Hallyday faisait une musique de noir, justement.
Oui, c'est vrai. Et notamment, l'une des personnes que j'ai interrogées qui était au concert de 66 à Abidjan m'a dit « Mais moi, j'y étais parce que j'ai retrouvé chez lui quelqu'un qui faisait de musique comme nous. Et c'est ce que j'adorais chez lui. » Mais il n'empêche que ce n'est pas parce qu'on aime sa musique que forcément, on l'interprète de la même façon d'un peuple à l'autre. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait une partie de la population qui n'était peut-être pas totalement instruite, et puis même chez ceux qui étaient instruits, il y avait quelquefois une compréhension, une interprétation d'une chanson qui n'était pas celle de l'auteur. Et naturellement, ça a créé donc un malaise dans certains pays.
Ça s'appelle un malentendu.
Un malentendu, un gros malentendu.
La vague Yéyé a frappé toute l'Afrique de l'Ouest, et le photographe malien Malik Sidibé a témoigné d'ailleurs de cette jeunesse qui était embarquée au rythme Yéyé notamment, et il en a fait des images formidables.
À travers le Mali, je peux dire que je ne me suis pas borné seulement à Bamako. Et j'étais sollicité même pour des mariages ou bien pour des cérémonies officielles dans les villages traditionnels. Et qu'on m'invitait des fois à longue distance, à 300, 400 km de la ville de Bamako. Mais moi, je suis tombé sur une période vraiment où le monde était beaucoup vraiment communiqué. Il y avait vraiment une communication. S'il y a une mode ou quelque chose qui sort à Paris, dans un mois déjà, c'est presque en Afrique. Ouais. Alors, je suis tombé sur ce temps où les jeunes encore en plus, parce que dans nos tam-tams traditionnels ou dans nos balafons traditionnels, il n'y avait pas de contact entre le jeune homme et la jeune fille. Les jeunes profitaient de toutes les occasions pour organiser une soirée et pour pouvoir toucher leur bien-aimé, quoi. Hein? Ou bien faire des fréquentations, ou bien des conquêtes. C'est, ça leur permet aussi de faire les conquêtes. Tout était au profit de la jeunesse.
Serge Billet, est-ce que vous attestez de la puissance quasi érotique des yéyés sur la jeunesse africaine ?
Je suis d'accord avec Malik Sidibé, parce qu'on a constaté qu'à cette époque, effectivement, donc dans les musiques traditionnelles, les gens dansaient les uns face aux autres, mais sans jamais se toucher. Et c'est grâce, justement, à toute la vague yéyé qu'il y a eu un contact réel, et que naturellement, lorsque un jeune homme cherchait une jeune fille, ça ne pouvait être que favorable donc, à ce genre de choses. Et donc, la vague yéyé a contribué, justement, à changer les mentalités dans la façon d'aborder la danse.
Et est-ce que c'est pour cette raison que la Guinée échappe à la vague yéyé ? Alors, je fais mon savant, là, j'ai juste lu votre livre.
Hein. La Guinée et le Mali, parce qu'il dit quelque chose de très vrai, Malik Sidibé, ça s'est passé comme ça jusqu'en 67, à partir de 67, il y a une rupture, c'est-à-dire que le régime de Modibo Keïta ne veut plus de la vague yéyé. Et donc, on arrête donc, la musique yéyé donc, à la radio. Et puis, tous les jeunes qui s'habillent avec des pattes d'eff ou avec des cheveux gominés ou autres sont arrêtés dans la rue, sont déshabillés pour les filles, sont emprisonnés pour les garçons, sont bastonnés. On retrouve exactement la même chose en Guinée, comme une espèce de répression contre quelque chose qui vient de France. Et la musique yéyé est interdite, en tout cas, toutes les musiques occidentales sont interdites par Sékou Touré, y compris la musique. Et donc c'est vraiment une période un peu d'obscurantisme musical qui se profile en Guinée et au Mali. On peut comprendre qu'il y ait une volonté naturellement de sauvegarder sa musique face à une espèce d'impérialisme qui vient de l'extérieur, mais là ça allait très loin parce que c'était une jeunesse qui était embarquée dans quelque chose qui n'était pas si nocif que ça. C'était un moment d'insouciance par rapport à des régimes qui étaient extrêmement durs et il y a une véritable répression par rapport à ça.
Oui, et puis il n'y avait pas d'idéologie dans les chansons, dans les textes, en tout mais cas des yéyés, c'est un peu de l'amour fleur bleue.
Oui,
quoi.
Mais c'était une époque de défiance de bloc à bloc et donc la jeunesse a finalement payé le tribut de cela, surtout en Guinée et au Mali.
Et au Cameroun, ça n'a pas été toujours très simple. Hein,
non, plus. Au Cameroun, il y avait un problème qui a été attesté dès 67. Le baccalauréat donc, a été un véritable échec et le ministre de l'Éducation nationale est monté au créneau en disant que c'est parce que les jeunes camerounais donc, écoutaient trop de yéyé et que les seules copies qu'ils connaissaient, c'était donc les copies de disques qu'ils écoutaient. Et quand elle est passée encore au François Hardy, ça s'est bien passé. Mais quand Johnny est arrivé au Cameroun, il y a eu un prétexte pour pouvoir l'expulser. C'est qu'à un moment donné, il a eu une altercation avec un ministre centrafricain qui se trouvait dans le même hôtel que lui. Et naturellement, le président Ahidjo a profité de ça pour pouvoir l'expulser. Donc le concert n'a pas eu lieu.
Alors la musique aide au rapprochement des corps, on l'aura compris. Mais est-ce que les mots font sens pour la jeunesse africaine? Les mots de Sheila, de Johnny Hallyday?
Moi, je pense qu'ils sont comme tous les jeunes de l'époque, qu'ils soient français, belges ou autres. Ils ont envie d'amour, ils ont envie de liberté. Voilà. Il n'y a pas de recherche, de construction contre un régime ou bien contre une idéologie qui pourrait les oppresser. C'est juste une envie de liberté qu'ils expriment. Et on voit bien qu'ils veulent juste s'amuser. Quand vous discutez encore avec des gens de cette époque, malheureusement ils sont rares, ils vous disent « c'était beau, c'était bien, on était heureux ».
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
Françoise Hardy, c'est pas forcément le signe du bonheur absolu, mais
oui,
quelle magnifique chanson.
Mais c'est pas le signe du bonheur, mais elle était extrêmement populaire. Quand elle fait son concert au Cameroun, la salle est pleine. Quand elle fait son concert à Côte d'Ivoire, la salle est pleine. Et surtout quand elle fait son concert à Johannesburg, c'est énorme. Il y a 10 000 personnes qui viennent à l'aéroport pour l'accueillir. C'est-à-dire qu'elle a un succès aussi grand que celui des grands artistes internationaux et un succès qui est plus grand que ce qu'elle connaît en France. Il faut savoir que les années yéyé en Afrique, pour les artistes français, c'était quelque chose de phénoménal, avec vraiment un succès et un triomphe qui était beaucoup plus énorme que ce qu'ils pouvaient connaître dans leur propre pays.
Oui, parce que vous racontez dans ce livre, Johnny Hallyday répète si t'as des couilles, la tournée de tous les autres. Vous
Bien
n'êtes
sûr.
Pas monomaniaque, si non, j'ose non. dire. Françoise Hardy débarque à Abidjan en 70 et elle est adulée.
Mais c'est extraordinaire.
Elle est blonde à l'époque.
Oui, elle est blonde.
Ça aide un peu.
Bon, il y a une fascination, à l'époque pour les blondes, mais elle a quelque chose, un charme qui se dégage, parce que même Sylvie Vartan aussi a connu un succès, Richard Anthony, tous ces chanteurs-là ont connu un très gros succès. C'était toute la vague yéyé qui était vraiment absorbée. Naturellement, Johnny était le chef de file de tout cela, mais derrière, il y avait toute la vague, et cette vague-là, donc les gens appréciaient.
France Gall, Claude François, Sylvie Vartan, Madame Johnny, tous viennent à Abidjan et en Afrique de l'Ouest, et on va un peu recréer le jukebox de l'époque.
Je cognerai le jour, je cognerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur, je bâtirai une ferme, une grange et une barrière, et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. Tout le monde chante encore. Oh, 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 oh.
Serge Billet, si l'on rencontre un Claude François à Abidjan, est-ce que c'est en hommage?
Oui,
chanteur
oui parce que son succès était tel que, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Congo, j'ai retrouvé la trace également, il y a des familles qui prénommaient leurs enfants Claude François. Le prénom, c'était Claude François. Claude François plus le nom de famille. C'était quand même assez extraordinaire. Ça montrait à quel point il y avait un attachement très très fort pour ces chanteurs yéyés et surtout pour lui. Et donc on retrouve en Côte d'Ivoire et au Congo des enfants qui étaient prénommés Claude François.
Avec donc toujours cette année 1966 qui est le démarrage de la vague yéyé en Afrique. 66, c'est aussi l'année des sucettes à l'Annie de France Gall.
Annie aime les sucettes.
Donc France Gall et ses fameuses sucettes, où elle a toujours dit qu'elle ne comprenait pas
oui,
ce qu'elle chantait.
Un peu érotique. Mais
c'est un peu beaucoup érotique. Voilà, pour les jeunes Africains, les jeunes Ivoiriens, c'était aussi opaque.
Pour être franc, je n'ai pas eu de témoignage à propos de cette chanson, je préfère être totalement franc. C'est surtout des témoignages autour des chansons de Richard Anthony, qui était une vraie star, que les gens aimaient beaucoup là-bas. Et après, donc, ça commence à décliner, parce qu'un jour, il est venu à Abidjan, et il a fait un concert, il était prévu pour 2 heures, il a chanté pendant 30 minutes et il est parti, et depuis donc ça a complètement plombé son succès donc en Côte d'Ivoire. Et puis donc naturellement, on disait tout à l'heure Françoise Hardy et Sylvie Vartan. Sylvie Vartan était vraiment adulée, et lorsqu'elle a fait son concert par exemple à Abidjan, c'était une foule immense qui a envahi donc la salle pendant 2 soirs, parce que c'était une femme que les gens admiraient.
Pour tous ces artistes, l'étape africaine, c'est une étape parmi d'autres où ça a créé un choc pour eux dans leur histoire, vous pensez ?
C'était quelque chose... Moi, j'ai lu une interview de Françoise Hardy en 66 où elle disait que non seulement c'était un choc, mais ils étaient absolument surpris d'arriver sur ce continent et de voir que tout le monde connaissait leurs chansons. Et pour Françoise Hardy, c'était Mon ami la rose. Mon ami la rose, partout où elle partait, c'était le tube. Aussi bien lorsqu'elle est venue donc à Abidjan que lorsqu'elle est passée à Dakar ou au Cameroun. Mais quand elle est partie à Johannesburg et qu'elle a rencontré le fameux professeur Christian Bernard qui avait fait ces fameuses opérations donc, à cœur ouvert donc, à l'époque, et Christian Bernard lui a dit que pour ses patients qui étaient donc dans son hôpital, la chanson qui leur donnait l'espoir, c'était « Mon ami la rose ».
Françoise Hardy, en Afrique, il y a aussi parmi les yéyés un autre chanteur qui bénéficie d'un statut un peu différent.
Oh yeah. Ma mère m'a dit « Antoine, fais-toi couper les cheveux ». Je lui ai dit « Ma mère, dans 20 ans si tu veux ». Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah. L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant, c'était Yvette Turner qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Oh yeah.
Antoine, avec ses chemises à fleurs et ses cheveux longs, le rival donc de Johnny Hallyday, et vous nous racontez, c'est dans sa biographie, mais on n'y pense pas forcément, Serge Bilet, que Antoine en fait était africain.
Oui, parce qu'il est né à Madagascar et donc il faisait partie un peu de ce courant yéyé qu'on avait à Madagascar. Il y avait le groupe le plus connu à Madagascar qui a fait une grande carrière en France et ailleurs, qui s'appelait les Surfs, qui étaient quatre frères et sœurs, si je ne me trompe. Et donc Antoine était dans ce mouvement-là de tous ces natifs de Madagascar. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Antoine était absolument aimé, en tout cas en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, alors qu'il n'est jamais venu se produire en Côte d'Ivoire. Et j'ai un oncle qui faisait partie de ce groupe qui supportait Antoine et qui était farouchement opposé au groupe qui supportait Johnny Hallyday. Et entre eux, quelquefois, il y avait des bagarres. C'est-à-dire qu'Antoine insultait Johnny Hallyday, donc les gens du groupe de Johnny Hallyday venaient se fâcher contre ceux d'Antoine répliquaient. Et c'était comme ça. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'Antoine et Johnny se lançaient des chansons et des piques, eh bien les gens s'affrontaient à Abidjan par procuration. Et moi, je trouvais ça extraordinaire qu'on puisse comme ça, dans un pays qui est si loin de la France, se retrouver en désaccord et quelquefois même en antagonisme très, très poussé, uniquement parce que deux chanteurs s'affrontaient à Paris.
Alors ce qui est formidable, Serge Bilet, avec votre livre, c'est que c'est une découverte, pour moi en tout cas, et je pense que pour plein de lecteurs, découvrir cet impact-là des yéyés sur l'Afrique, c'est une découverte, ça n'avait jamais été raconté ou presque.
C'est vrai, mais bon, l'histoire est pleine de petites choses comme ça qu'il fallait fouiller. Je suis même content de voir que même la propre famille de Johnny Hallyday découvre à travers ce livre des choses qu'il n'avait jamais imaginées, qu'il ne connaissait pas. On s'est beaucoup braqué, à mon avis, ou en tout cas contenté du succès américain de Johnny Hallyday, ou en tout cas de l'aventure américaine de Johnny Hallyday, on a oublié que sa première grande aventure, c'était d'abord l'Afrique. Et aujourd'hui, il est bon ton, à mon avis, de pouvoir resituer les choses et de lui donner cette justice-là pour dire que cet homme a eu une grande histoire d'amour avec l'Afrique.
Est-ce que vous pensez que la musique francophone est aussi présente aujourd'hui sur le continent qu'elle l'était à l'époque, qu'il y a un côté soft power, non ?
Non, absolument pas, parce que je crois qu'aujourd'hui, la politique a pris le dessus, hein, avec tout ce qu'on voit bien, les tensions au Mali, en Guinée et ailleurs. Et là où la musique pour moi, créer des passerelles, moi qui suis aussi musicien et qui écoute toutes les musiques et qui adore aussi bien la musique africaine que française et autres, je constate qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment cette force-là qu'il y avait donc dans le lien musical qu'il y avait entre l'Afrique et le continent européen.
Sniff.
Ben, c'est malheureusement la vie. Mais bon, moi je dis que ça va, ça vient. Peut-être qu'aujourd'hui c'est comme ça, peut-être demain les choses risquent de changer. Mais ce lien était très fort et je trouvais intéressant aussi que d'un autre côté, les Africains venaient de plus en plus donc, en Europe. Je pense à Bella Bello au Togo, je pense effectivement à Rochereau dont on parlait tout à l'heure, qui venait se produire à l'Olympia. C'était vraiment un échange. Malheureusement, cet échange aujourd'hui est beaucoup plus compliqué parce que la politique a pris, à mon avis, le dessus.
Merci beaucoup Serge Bilet. Johnny Hallyday, répète si t'as des couilles, est édité chez Coffee Bar. Récit plein d'anecdotes et de quelques photos assez cocasses comme celle de Johnny en short sur l'île de Gorée.
C'est vrai.
De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Tiffany Meta et Guillaume Ploquin à la réalisation. Yeah, à demain.